Bonjour et bienvenue à Scal 17-18 avec Fulgence Blau au micro et Maurice Bolduc à la technique. Bon, c'est jeudi, hein, c'est le. Voilà, c'est la première partie de l'émission. C'est la chroniqueuse de sport Myriam Larrache qui sera avec nous pour nous donner les nouveautés sportives. Voilà, et puis en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Jean-Yves Dutel qui nous a sorti un livre il y a quelques années, 2019 si je ne me trompe pas, après la disparition de Bernard Landry, L'héritage d'un patriote. Voilà, il vient pas, on l'aura au téléphone parce qu'il n'est pas en studio. Il va nous parler de ça, comment cette amitié s'est créée entre ce jeune Français qui est arrivé ici dans les années 70 avec le grand Bernard Landry. C'est le premier livre d'ailleurs sur la vie de Bernard Landry, si je ne me trompe pas. On commence tout de suite avec Bodio en musique, Jamba qui vient de... Voilà, qui sort demain, mais même pas encore sorti, ça sort demain, c'est un single. On va l'écouter en première, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Jamba, ouais, ça c'est un avant-goût de son album qui sort bientôt d'ailleurs. D'avance, ce single-là, il n'est même pas encore sur les plateformes numériques. À partir de demain, on en a en primeur, pourquoi pas. On est bien gâtés. Alors là, au téléphone avec nous, la grande Myriam Larrache, qui va nous surprendre avec les nouveautés sportives. Là, je m'attends à des trucs. Si elle n'a pas fait, me dit pas ça, je serais fâché. Bonjour Myriam.
Bonne fin d'après-midi, Fulgence, et à tous nos auditeurs. Il y aura une surprise.
Voilà, alors je sais que tu me surprends tout le temps.
À la fin, je vais vous donner une nouveauté à la fin. Alors, voilà. Mais par contre, on ne peut pas échapper au hockey, Fulgence, ni au soccer, pour ce qui se passe à Montréal en ce moment, OK?
Oui, non, on ne peut pas échapper à ça.
Non, on ne peut pas. Alors, le hockey, d'abord, hein, qui fait la une partout. La première victoire du Canadien a été signée samedi dernier contre les Red Wings de Détroit.
Bravo,
ça a donné, ça a donné une lueur d'espoir aux partisans et à la direction de l'équipe. Mais comme l'a indiqué l'entraîneur-chef, Dominique Ducharme, il a dit « On s'est mis dans cette situation, maintenant il faut se rattraper ». Rappelons que le tricolore est le dernier du classement de sa section. Il devra garder une certaine constance de victoire s'il veut aller loin.
Oui.
Et le voilà maintenant, devine, ils sont où? Sur la côte ouest pour un périple de 4 matchs depuis mardi soir. Et malheureusement, et oui, il faut le dire, malheureusement, l'effet boule de neige pour d'autres victoires n'a pas eu lieu. Le Canadien a remis ça en cédant le match contre la toute jeune équipe, le Kraken de Seattle. Et en plus, encore une fois, une écrasante défaite pour une marque de 5-1. Alors, les joueurs, c'est fulgurant, quand on les interroge, ils vont toujours en conférence de presse.
Oui,
et ils continuent de s'auto-flageller, comme on l'a dit au début, avec des réponses aux médias comme « ce n'était pas beau ce soir », ça c'est Ben Kerriott. Après cette autre déconfiture, « on ne méritait pas de gagner du tout », dit Josh Anderson. « Ça ne marche pas », enchaîné Jeff Petrie. Écoute, l'alchimie n'est pas là. Hein. L'alchimie n'est pas là entre les joueurs et au sein de l'équipe. Elle n'est pas au rendez-vous. Il va le falloir, car si ça continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer, Fulgence? Comme il se passe toujours, eh bien, il y a des têtes qui tombent. Hein.
Oui, des têtes qui tombent, d'abord l'entraîneur.
Ah, Jeff Molson, à un moment donné, d'ailleurs, il y en a plusieurs dans les blogs, tout ça, qui disent ben, il tarde à prendre des décisions et des changements.
Je n'ai même pas, j'ai une photo floue, je l'ai vue dernièrement à la télé, je l'avais jamais vue. Hein, il fait jamais de déclaration, ce monsieur.
Rarement, c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui vient parler, quoi. Il a une face de petit garçon, hein. On dirait qu'il vieillit pas, là. On dirait qu'il a 12 ans, là.
Lui, il finance tout. Voilà, il prend les décisions, on le voit pas, voilà. Allez, je te laisse aller, Myriam. Là, comme tu le dis, il y a des têtes qui vont tomber en commençant par l'entraîneur.
Ben, l'entraîneur, je sais pas, parce qu'il a fait quand même des miracles l'année dernière en venant prendre la place de Claude Julien, hein.
Oui.
Je me rappelle, en plein milieu de la saison, il a fait un miracle au point qu'il les a emmenés presque à toucher, à sentir la coupe Stanley, hein.
Oui.
Alors, ils l'ont confirmé parce qu'il était par intérim. Je pense pas que c'est lui qui va sauter, c'est pas sa tête qui est mise
sur le bûcher.
Pour le tordeur, là. Ouais, pour le tordeur ou le bûcher, comme on veut.
Ouais.
Mais, bon, je veux pas dire de nom, moi.
Non, on préfère ne pas dire de nom, il ne suffit pas qu'on se fasse lancer les pieds à la sortie du studio. Là.
Voilà. Alors, j'imagine la scène, mais bon, ce soir, le Canadien affronte les Sharks de San Jose en Californie, et ça ne sera pas non plus facile, car ils ont une fiche de 4 victoires et 2 défaites pour l'instant, et c'est à 22h30, parce que c'est côté pacifique, donc il faut être réveillé ce soir, pour ceux qui veulent voir ça.
Ils n'ont pas le moral.
Non, ils l'ont pas, du tout.
Ils n'ont pas le moral.
Et il dit, hein, même l'entraîneur, il dit, il y a cette alchimie qu'il y a dans l'équipe, tu sais, quand il fait ses trios, elle n'est pas là.
Ouais,
elle n'est pas là, leur capitaine n'est pas là, leur Carey Price n'est pas là. Alors,
ça les a complètement déboussolés même, quoi, il faut le dire.
Oh, ouais. Ils sont comme léthargiques, tu sais, ils sont comme, qu'est-ce qui nous arrive?
Oui, sans Carey Price.
Il va falloir se réveiller à un moment donné, de toutes les façons.
J'espère qu'ils vont le faire.
Exact. Maintenant, on passe au soccer féminin. Es-tu allé, Fulgence, au match?
Ah non, moi j'avais peur de la pluie, du mauvais temps. Mais je suis allé voir le résumé du match après sur YouTube. Les 5-1. Mais les buts coulaient, les buts tombaient comme si elles avaient en face une équipe de division 6.
Bon. Mais pas mardi soir. Ça, c'était à Ottawa que tu as vu, celui d'Ottawa où ils ont fait 5-1. Mais mardi soir, ils ont difficilement joué. Ils ont eu un 5-1.
Donc, alors, ça, c'est le match d'Ottawa que j'ai vu, le 5-1.
Oui, ça, c'est Ottawa où ils ont fait une époustouflante performance. Ils ont une victoire écrasante.
Alors, parle-moi un peu du match de Montréal, s'il te plaît.
Mardi, Montréal. Ouais. Je pensais que tu étais dans les gradins. Je te cherchais à la télé. Où est-ce que je cherche Charlie, mais je ne t'ai pas trouvé.
J'ai eu peur du froid, de la pluie.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'était une soirée froide, humide et pluvieuse, 8 degrés. Hein.
Oui.
Alors, en plein air, c'est pas drôle en octobre. Alors, c'est quand même dans cette soirée-là que les championnes olympiques de soccer ont enfin foulé le sol québécois du Stade Saputo.
Oui.
Et leur but vainqueur du deuxième match, donc ce deuxième match contre les Néo-Zélandaises à Montréal, a réchauffé quand même le public, venu leur rendre hommage. Les Canadiennes se sont imposées contre la Nouvelle-Zélande pour la deuxième fois, comme tu dis, c'est une victoire écrasante à Ottawa, dans cette tournée qu'on appelle la tournée de célébration.
Oui.
Celle qui a marqué, c'est Andriana Leon. Elle a marqué aussi 2 buts l'autre fois à Ottawa. Elle a marqué
oui, c'est ce que j'ai vu dans le résumé du match, là, qu'on appelle highlight, le résumé du match.
Oui.
Mais les buts tombaient comme si elles avaient en face d'elles une équipe de 6e division.
Ben, j'étais en forme, par contre, mardi. Hein, c'est elle, même au point que l'entraîneur-chef des Canadiennes, Bev Priestman,
oui,
elle a dit, nous avons mal joué, parce qu'elle a fait beaucoup de changements. Elle a eu des nouvelles qui sont rentrées, qui étaient en congé, je pense, qui sont arrivées pour la... C'est qu'elle a dit, la cohésion n'était pas très bonne, on n'a pas bien joué. Elles auraient mérité de gagner. Elle a dit ça des Nouvelles-Zélandaises. Elles étaient en jambes, en forme. Alors, que les Canadiennes traitaient de la patte un peu.
Moi, j'attends le résultat, là. Qu'est-ce que tu me dis, le Russe?
Elles ont quand même gagné 1-0.
Oh, oui.
Voilà. Elles ont quand même gagné 1-0.
Je croyais que tu allais me dire qu'elles ont perdu. J'allais dire,
non, 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 non. Puis, d'ailleurs, c'est, comme je l'ai dit au début, ça a réchauffé toute l'ambiance du terrain.
Oh, oui, je peux m'imaginer.
Elle a même dit qu'on a presque gagné. L'entraîneur-chef, elle a dit on a presque gagné parce que le public était incroyable. Elle a dit qu'il y avait une ambiance festive, les gens les applaudissaient, les encourageaient. Elle dit c'est presque grâce à eux qu'on a gagné notre match.
Ouais.
Alors,
ouais.
Voilà, elles ont défilé avant avec la médaille au cou. Christine Sinclair, Stéphanie Labbé, c'est les Québécoises Vanessa Gilles, Evelyne Vien et Gabrielle Carle. Donc, très applaudis. Ils ont accueilli le Stade Saputo, donc 11 323 partisans qui étaient énergiques
qui
et chaleureux.
Qui se sont déplacés, là, malgré le mauvais temps.
Et leur honneur, oui.
Oui, c'est pour ça que je ne suis pas allé. J'ai eu peur du froid.
Ah, c'était terrible,
oui,
ce mardi-là.
Mm-hmm.
Alors, il faut maintenant se tourner vers le futur. C'est bien beau, les célébrations, c'est
mais
super.
Je te dis quelque chose, Myriam.
Oui,
c'est que je suis allé sur le site. J'étais en train de booker mon billet, tout ça. J'ai,
oui,
vu l'emplacement où je voulais être. C'était pas protégé. Je me suis dit non, j'ai pas envie de passer des heures et des heures dans le froid, sous la pluie, là.
Puis, il y a beaucoup de vent dans ce coin-là, hein, dans le terrain, le Stade Saputo. Je sais pas si t'es déjà allé, sûrement.
Je suis jamais allé.
Ah, moi, je suis déjà allé.
Ah, voilà, toi,
je suis allé avec mon fils en famille.
Ton garçon, voilà.
Et, oui,
oui.
Parce qu'on voulait voir Didier Drogba dans le bon temps de l'Impact.
Je suis jamais allé au Stade Saputo.
L'été, il y a un petit vent, hein. Il y a le soir, là, il y a comme un endroit de courant d'air. Alors,
donc, tu me pardonnes que je sois pas. Que tu m'as pas vu dans les gradins.
Je vais réfléchir.
Voilà.
À la fin de l'émission.
Allez, je te laisse partir.
Alors, donc là, maintenant, il faut se tourner vers la prochaine coupe qui est en 2023, hein, qui se déroulera, devine où ? En Australie et Nouvelle-Zélande. Hein ?
Oui.
Alors, qu'elles ont affronté là pendant deux matchs. Donc, ça va se passer là en 2023. À ce qui paraît que le tirage pour la qualification de barrage, ça va être au mois d'avril 2022, donc c'est bientôt.
Oui.
Et donc, je suppose que les Canadiennes certainement seront de la partie.
Donc, c'est deux pays co-organisateurs.
Oui.
Voilà.
Deux pays avec, à ce qui paraît, 30 villes, une vingtaine de villes à peu près qui va les accueillir pour,
ouais,
tout le mois.
Ouais, ouais. Deux pays co-organisateurs. Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais, je ne vois pas la Nouvelle-Zélande seule en train d'organiser une Coupe du Monde, là.
Oui, exact.
L'Australie non plus.
Alors, non plus. Alors maintenant, au soccer masculin,
attention. Et Myriam, tu as vu le score fleuve de l'équipe nationale de féminine soccer américaine qui a écrasé la Corée du Sud 6-0.
Ouf, j'ai pas vu ça.
Oh,
elle était aussi en tournée de célébration.
Oui.
elles ont dû se dire, c'est comme ça qu'on aurait dû écraser les Canadiennes parce qu'elles ont pleuré d'avoir,
voilà,
perdu contre les Canadiennes.
Ah, non, c'était beau aussi. Ça m'avait. J'ai vu les deux résumés en même temps, quoi.
Je vois que tu es plus fanatique du soccer féminin que masculin.
Mais elle joue bien, elle joue très bien. C'est les filles qui m'ont toujours épaté. C'est vrai. Le soccer féminin a pris de l'ampleur ici, il faut le dire.
Mm-hmm.
Très
toujours en Amérique, c'est les équipes qui sont très très fortes.
Oui.
Maintenant, on va retourner quand même chez les hommes. On va leur donner un peu de crédit.
Oui.
Alors, c'est pour une victoire spectaculaire que le CF de Montréal a conclu son match. Donc, et il est en finale, qualifié en finale de championnat canadien. Vous rappelez, je vous avais parlé qu'il y avait la Ligue canadienne.
Oui.
Et que ceux qui ont gagné la dernière coupe, ce sont l'Impact. C'était l'Impact à l'époque.
Oui.
Alors, ils sont qualifiés pour la finale, le CF de Montréal. Ils ont gagné 8-7 au tir de barrage. Et c'est le goaler qui a marqué. Hein. Il a arrêté le tir de son rival, goaler Tristan Henry.
Oui.
Et quand c'est son tour d'arriver pour marquer, ben, il a marqué son but, lui, contre l'autre.
Mais un goaler qui va rater un pénalty, c'est que ce n'est pas un goaler. il sait comment déjouer son collègue goleur quand même, gardien de but.
Entre eux deux que ça s'est passé, puis c'est l'autre qui a gagné.
Voilà.
Donc Sébastien Breza, grâce à cette victoire, donc les hommes de Wilfried Nancy affronteront en finale le vainqueur de soit Toronto, soit le Pacific FC.
Oui.
Et donc tout cela dans la Canadian Premier League.
C'est
la semaine prochaine que ça se passe à Toronto. Il faudra surveiller pour voir qui seront nos adversaires.
Ok. J'ai bien hâte de savoir qui va affronter le.
Oui. Parce que Toronto, ce sont nos rivaux, hein, quand même.
Oui, oui, que ce soit au hockey ou bien au soccer, voilà, c'est voilà.
Exactement. Mmh. Toujours le CF Montréal qui jouait sa vie cette fin de semaine pour les séries de la MLS. Mais ça va très mal. C'est toujours la même équipe dont je parle, les gens pour qu'ils se perdent pas là. Le CF Montréal est sur la corde raide en ce qui concerne de la Ligue MLS.
C'est-à-dire?
Ben, ils sont en 8e position, ils ont fait un match nul, ok, contre justement Toronto, encore une fois, leur rivaux. Ils leur ont marqué, écoutez, les gens pleuraient. Wilfried Nancy prenait la tête contre le banc, il était au bord des larmes presque, c'est ce que je veux savoir. Parce qu'ils menaient le match 1-0, donc ils allaient avoir 3 points.
Oui.
Ce qui allait bien les placer par rapport aux deux équipes qui sont... Ils sont trois équipes à se battre pour la 6e, 7e place.
Pour la 6e, 7e place.
Toujours, voilà. Et là, les Torontois qui sont, eux, éliminés, hein, parce qu'ils sont, je pense, 12e dans le classement.
Oui.
Ils leur ont marqué à la 89e minute un but. C'est que ça leur a fait 1-1. Donc, ils n'ont eu qu'un seul petit point. Et ça les place en 8e position. Donc déjà, ils ne sont pas qualifiés pour l'instant. Et ils ont un match d'avance sur New York, les Red Bulls de New York, et sur l'Atlanta United. Donc ça va se jouer dans les jours suivants. Ils vont savoir leur sort. Leur sort, au fait, est dans les mains des autres équipes. Ça, il faut jamais jouer comme ça. Hein.
Ah non, ça
Mais c'est
pas...
comme ça que ça se passe.
Tu passes ça, c'est comme ça, tu passes des nuits blanches.
Exact. Alors, Wilfried Nancy, il doit tirer les cheveux en ce moment.
Oui, bon. Oui.
Maintenant, je finis hein, pour la petite histoire. Tu m'as demandé de la nouveauté. Eh bien, tu en as, Fulgence. On en a beaucoup parlé. On l'a voulu. On a échafaudé des plans et on a réussi.
Oui.
C'est fait. Nous avons une équipe de basket professionnelle à Montréal. Et elle s'appelle l'Alliance de Montréal.
Une équipe de basket professionnelle.
Professionnelle, c'est incroyable. Alors, le grand dévoilement a eu lieu hier après-midi entre les murs du nouvel auditorium de Verdun,
très
loin de chez moi, ça, qui sera le domicile officiel de l'équipe dans la Ligue élite canadienne de basketball.
Le QG, ouais.
Oui, exact.
Il était temps.
Il était temps. Oui, parce qu'apparemment, tous nos joueurs professionnels au Québec vont jouer ailleurs.
Aux États-Unis ou bien à Toronto, dans d'autres villes au Canada, ils sont tous partis.
Les Raptors de Toronto est la seule équipe dans la NBA. Hein. Les autres sont dans des ligues canadiennes, les autres équipes.
Oui,
c'est une ligue professionnelle d'élite qui va permettre, comme il a dit Morales, celui qui est le commissaire de cette ligue-là, que ça va permettre aux Canadiens d'avoir un choix professionnel pour jouer chez eux, dans leur club, chez eux. C'est formidable.
Oui,
et il a aussi dit que tout ça, justement, c'est grâce au succès des Raptors de Toronto qu'il y a eu. C'est grâce au succès qu'il y a dans les écoles maintenant secondaires où, à ce qui paraît, beaucoup d'élèves s'intéressent au basket.
Oui, je peux m'imaginer. Ouais, c'est comme nos filles, les filles championnes olympiques, là, ça pousse beaucoup de jeunes filles à aller vers le soccer maintenant.
Exact, bien sûr. Comme, quand il y a la semaine à Toronto de tennis ou à Montréal, quand il y a les grands chelems, il y a toujours une période où les gens s'inscrivent plus dans le sport. Les jeunes vont plus s'inscrire dans le sport. Alors, c'est formidable. Pourquoi l'Alliance, tu vas me dire, c'est quoi ce nom, d'où il sort hein? Alors, le nom de l'équipe découle quand même d'un sondage où certains termes sont revenus souvent. Communauté, inclusion, diversité, rassembleur. Donc, on a essayé de trouver un mot qui semble résumer tout cela.
Oui.
Et le commissaire de la Ligue a accepté ce mot. Quand on lui a dit Alliance, il a accepté tout de suite. Le logo représente un loup bleu et blanc entouré d'une fine ligne rouge. Alors maintenant, si tu vois ça là, tu sais que c'est le basket de Montréal.
Ah bon, d'accord, ok.
Avec une fleur de lys sur le front.
Wow.
Pas oublier qu'on est au Québec.
J'ai bien hâte de voir le premier match. Hein. Les équipes qui vont se former, qui vont se disputer, qui vont se déchirer, oui.
Ça se disputera en mai 2022 à l'Arena, ici, à Verdun. C'est formidable. La directrice, la vice-directrice, donc Annie Larouche, elle dit que la prochaine étape sera de nommer un directeur général et un entraîneur chef.
On leur dit bravo pour tout ce qu'ils ont fait pour ça, effectivement. Là, maintenant, j'attends un peu.
Là.
Oui, là, maintenant, on attend la ligue de soccer féminin. Là.
Oui, hein.
Oh, ouais. Tu en as parlé la semaine passée, je me rappelle bien.
On va peut-être. Hein. Elle dit qu'il y avait des discussions, qu'il y a beaucoup de discussions sur ça. Hein. Bref,
ça va aller plus vite qu'on le pense. Hein.
Plus vite.
Oui.
Alors, voilà. Donc, il faut savoir que ça va être la plus grosse ville au point de vue public, au point de vue à ce qui paraît commandite et tout ça, on sera la plus grosse ville de la Ligue. Car il y aura Hamilton, Niagara, Scarborough, Edmonton, Saskatchewan, mais nous, on sera la plus grande du circuit. Alors j'ai hâte, comme c'est dit, d'aller voir ce match. Peut-être que ça va soulever. Hein,
moi aussi. J'ai bien hâte. Il y a des enfants qui vont se lancer dans le basket maintenant parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de s'expatrier pour jouer au basketball.
Exact. Alors, voilà, et la saison, eh ben, elle se passe de mai au mois d'août.
Oui.
Parce qu'elle attend que la NBA finisse. Elle finit la NBA vers fin avril, début mai.
Oui.
Et la saison, la Ligue canadienne, donc professionnelle, va être du mois de mai au mois d'août. Il faudra suivre ça de près, Fulgence.
Ouais. De toutes
C'était
les façons.
C'était la nouveauté de cette semaine.
Si j'y rate des choses, tu es là de toutes les façons pour nous gâter. Alors, merci beaucoup, Myriam.
Alors, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Ouais.
How the hell did we wind up here? You're hitting rock bottom and I'm full of fear. The cold wind has frozen your heart. Let's rewrite this story and make it a long one. It's broken and falling apart. I won't let you lose who you are. And you're lost in this lonely light, trying to kill the pain you're feeling. Lost, but I'm here tonight, trying to chase away your demons. I scream it, I mean it, and I'ma stand by you till you find what you darkness in this space. You've come so far to have fallen from grace. The cold wind has frozen your heart. Let's rewrite this story and make it a long one. It's broken and falling apart. I won't let you lose who you are. And you're lost in this long you lost. Oh, 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 oh.
I'ma stand by you till you find what you lost. And I'ma stand by you till you find what you lost.
Jonathan Roy. Oui, ouais, Lost, c'est le prix, c'est le titre de la pièce. Il y a une version studio, ça c'est une version acoustique, performance live, que j'adore beaucoup d'ailleurs, j'apprécie. Très bon artiste. Alors, il y a une journaliste espagnole qui vient d'être licenciée, qui après avoir fait une remarque raciste sur un joueur de, un français noir qui venait de Rennes pour le Real de Madrid, est à la télé, à l'émission. Eh bien, c'est une journaliste télé, de télé. Et puis elle a dit à ses collègues, elle savait pas que son micro était ouvert, elle a dit ce type est plus noir que son costard, c'est-à-dire son veston. Son veston. Alors, son père savait pas que son micro était ouvert. Alors, elle s'appelle Lorena Gonzalez. Révèle avoir été virée par sa chaîne de télévision en raison de cette remarque raciste sur Eduardo Cavavinga. Cavavinga. Voilà, donc ce dérapage date du 8 septembre dernier d'ailleurs, et lors de la présentation du milieu de terrain français au Real Madrid. Voilà, le fameux micro ouvert, ça piège beaucoup de gens. Beaucoup de gens, oui. Les gens pensent que... Voilà, si tu le penses, pense-le pour toi, c'est pas la peine de le dire publiquement. Bon, tu es en studio, tu as la télé, bon, tu sais même pas si ton micro est ouvert ou pas. Voilà, elle s'est retrouvée dans cette situation embarrassante le 8 septembre dernier. Lorsqu'un de ses commentaires a été diffusé en direct, là, tout le monde s'était enflammé là sur les réseaux sociaux. Alors, elle a présenté ses excuses au joueur. Le joueur n'a même pas pris ça. Oh, il a dit, bon, si elle le pense comme ça, bon, ben, je n'y peux rien. Je peux pas demander de me trouver une autre couleur de peau. Je suis comme ça, point, c'est tout, quoi. Mais c'est son employeur qui n'a pas du tout apprécié. Voilà, même si le joueur n'a pas été offensé, non, son employeur dit non, ça ne marche pas, on ne te garde plus, va te débrouiller ailleurs, ou tu vas trouver des gens qui ont une couleur qui n'est pas plus foncée que leur costard. Voilà, on va à la petite pause publicitaire, et puis on vous revient, juste pour recevoir Jean-Yves Dutel, qui va nous parler de Bernard Landry, le livre est sorti, ouais, un an, deux ans, oui, Bernard Landry, l'héritage d'un patriote, c'était de grands amis. Va découvrir le contenu un peu plus tard. Restez à l'écoute.
Le 17-18 avec Fulgence Blas.
Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillée au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin, de ce neige désert, où vous vous entêtez à jeter vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, aux voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille.
voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays plein champ, et voix des amoureux, douces voix attendries, des amours du village, voix des beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville, pillailleurs ridicules, et palabres et sparages, magasin général et restaurant du coin, et pans les quais les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e, vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie, il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits, il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme Paris de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme glace en débâcle, je vous entends demain parler de liberté.
Gilles Vigneault, les gens de mon pays. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Jean-Yves Dutel. Bernard Landry, l'héritage d'un patriote. C'est un livre que son ami, c'est-à-dire le monsieur qui est avec nous actuellement au téléphone, qui va parler de ce livre, je l'ai rencontré par hasard au moment avant les élections. On était tous deux fumeurs sortis de l'immeuble. Il y avait le bureau des élections dans l'immeuble. C'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Yves. Voilà, et puis bon, ben, on a une copie du livre. J'ai une copie du livre. Et puis l'entrevue a été bookée. Bonjour Jean-Yves Dutel.
Bonjour Fulgence, ça me fait plaisir de vous entendre.
Ça me fait plaisir de vous réentendre, de reparler avec vous. Comment allez-vous?
Ah, ça va bien, on peut dire que ça va bien. Vous savez, on parle de Bernard Landry, le 6 novembre, on va tenir la journée Bernard Landry, le cercle des amis de Bernard Landry, dont je suis le fondateur avec la famille,
oui.
Une association bona fide. Pour la pérennité de sa mémoire, ça va être la deuxième fois. L'année dernière, on ne pouvait pas pour la Covid, mais on va tenir chaque année, on tient la journée Bernard Landry et sur des thématiques différentes par lesquelles il a marqué le Québec, et on attribue des bourses à des jeunes. Donc, ça va être le 6 novembre. Et les gens que ça intéresse peuvent aller sur le site amibernardlandry.québec.
Oui.
Alors, je suis occupé là-dessus en ce moment.
Je me suis rendu compte la dernière fois, d'ailleurs, j'ai dit, mais ça doit être quelqu'un qui doit être très, très, très occupé. Voilà, avant d'aborder un peu les livres, d'ailleurs, cette amitié, le jeune français étudiant qui arrive ici, qui plus tard fait la connaissance, qui n'était pas, au début, vous n'étiez même pas un nationaliste, hein, il était un fédéraliste, parce que,
oui,
vous avez milité pour l'Union européenne avant d'arriver ici. Le jeune Alsacien qui arrive ici, qui est fasciné par le grand orateur Bernard Landry.
Effectivement, je sortais à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais pas 20 ans.
Oui.
Et c'était le début de la construction européenne, donc j'étais comme toute une jeunesse emballée par ça, et ne connaissant pas grand-chose sur le Canada et le Québec, sauf que j'avais des amis étudiants québécois à Strasbourg qui avaient commencé à me parler de l'indépendantisme, la souveraineté, je voyais ça dans l'œil en disant, voyons, c'est quoi ça? Et il a fallu que je réalise une fois ici que ce projet-là était tout à fait sensé. Donc, et c'est l'entremise de Bernard Landry, évidemment, qui était non seulement un excellent orateur, mais était un excellent pédagogue. Il pouvait faire des démonstrations où on n'avait pas grande contestation qu'on pouvait amener. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai été séduit et par la cause et par cet homme.
Oui. Oui. Est-ce que vous avez encore des nouvelles de Marielle, la Québécoise, qui étudiait à l'époque dans la capitale alsacienne à Strasbourg? Qui vous a mis, qui a fait que vous êtes tombé plus tard?
Pour la petite histoire, on s'était mariés. À l'époque, c'était très facile de rentrer, mais on avait une histoire d'amour. Ben oui, bien sûr, on est restés amis. On s'est séparés, mais on est restés amis, oui.
Oui. Alors, on va parler un peu de votre lien avec lui. Quand on est en amitié presque une cinquantaine d'années avec quelqu'un comme ça, et il vous a demandé d'écrire un livre sur lui, sur sa vie, quelle a été la réaction? Moi, je l'ai déjà lu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous vous êtes dit, mais au fait, je ne suis pas un écrivain.
Oui, c'est ce que je lui ai dit. J'avais commis deux livres, mais c'était plus des essais avant, mais je trouvais pas que j'avais les qualités d'un écrivain. Donc, puis je me souviens de ma phrase, j'avais dit lui qu'il y avait des classiques, je disais, je ne suis pas Chateaubriand. Il m'a répondu, mais je te demande pas d'être Chateaubriand, je te demande d'être Jean-Yves Dutel.
Et pourtant, donc, vous avez déjà, à cette époque, Jean-Yves, vous avez déjà écrit déjà en 72, Deux hommes et trois couffins qu'il avait préfacé d'ailleurs.
Oui, qu'il avait préfacé, puis j'avais fait un petit essai concernant Québec solidaire, enfin concernant, c'était un pamphlet, hein, je veux dire, c'était, on peut le dire, c'était contre Québec solidaire. J'ai toujours été impliqué très impliqué politiquement, et je suis, même si je suis alsacien avec des racines germaniques, j'avais du côté de mon père une grand-mère italienne, et je pense que le sang italien avait des effets.
Oui, j'y comprends.
Je me sens très latin.
Oui. Alors comment ce jeune fédéraliste, tout d'un coup, qui devient membre du parti, il prend sa carte de membre et puis commence à monter les gestes. Je lui dis, mais quel parcours !
Mais écoutez, c'est aussi la situation du Québec d'alors, en arrivant à Montréal.
Oui.
Et on ne sait pas aujourd'hui, les jeunes qui écoutent ne le savent pas. Je veux dire, Montréal, si on ne parlait pas l'anglais, dans les magasins, au centre-ville, on n'était pas servi. Les serveuses... Il m'est arrivé plusieurs incidents, comme me faire répondre chez Eaton Speak White quand j'ai parlé à une vendeuse en français.
Oui.
Donc, j'étais dans ce bain-là, je le sentais, je le voyais tous les jours. Mm-hmm. Je voyais que les francophones et les Québécois n'étaient pas, lequel de dire, maîtres chez eux, encore, malgré tout, la Révolution tranquille, etc. Donc, c'est cet aspect-là qui m'a intéressé d'abord, puis en allant dans les arcanes du Parti québécois, etc., bon, tout le reste est venu avec ce projet qui me tient toujours à cœur, et puis je ne suis pas désespéré ni pessimiste. J'avais un cours d'histoire qui disait que tant qu'une situation historique n'est pas réglée, elle n'est pas réglée et elle est à régler.
Oui.
Alors, l'histoire est un long processus, alors peut-être moi je ne le verrai pas de mon vivant, comme Bernard a dit peut-être qu'il ne le verra pas de son vivant, mais je suis tellement persuadé que ça va arriver. Et pour avoir été si longtemps politique aussi, je sais que un an politique, c'est 6 ans, hein, ça passe, des choses peuvent tellement se virer de bord et se renverser d'un jour à l'autre. Donc moi je suis rentré là-dedans avec lui, c'était mon mentor. Ça a été mon mentor à partir de un an, 2 ans après être arrivé ici.
Oui.
Et après, bon, la victoire à l'élection 76 du Parti québécois m'a permis de travailler avec lui, d'être son collaborateur jusqu'en 1985. Après la défaite, lui est retourné à l'université, mais j'étais devenu son ami.
Oui.
Donc on n'est absolument pas perdu de vue. On s'est vu, on se fréquentait avec les familles tout le long du chemin, retour en 85. Moi, j'ai fait une carrière dans le privé.
Oui. Vous avez très bien gagné votre vie, mais vous avez perdu un emploi à Radio-Canada pour aller battre la campagne, d'ailleurs, à l'époque.
Oui. Puis bon, j'ai été directeur des communications à la STM aujourd'hui, à des collectivités actuelles, puis dans une grande pharmaceutique. Donc oui, je gagnais très bien ma vie, mais en 80, j'ai toujours resté actif politiquement avec lui et les autres. J'ai connu ce compagnonnage au Parti québécois qui était magnifique. Moi, je dis le Parti québécois, ça a été ma famille. Hein, je veux dire, ça a vraiment été ma famille. Tout.
Pourquoi vous dites ça a été, ce ne l'est plus?
C'est-à-dire le parti en tant que tel, à l'heure actuelle, j'ai de la difficulté, mais l'idée, la souveraineté, c'est ma famille. J'ai pas changé de parti, je veux dire, mais ce parti-là, avec ce qu'elle a connu, et ce qu'elle a surtout connu après le départ de M. Landry en 2015, bon, c'est une descente aux enfers.
Oui.
J'ai beaucoup d'admiration pour le nouveau jeune chef que j'ai rencontré. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il a un courage incroyable.
Oui.
Et en passant, moi pour qui la langue française est importante, alors que ce n'est pas ma langue maternelle, hein, je précise toujours, l'allemand étant ma langue maternelle.
L'alsacien ou bien l'allemand? Je connais bien cette région-là parce que j'ai...
L'alsacien pour la maison, l'allemand pour l'extérieur.
Oh là, parce que j'ai vécu à Freiburg là à côté.
Oui, Freiburg c'est à côté, Freiburg c'était la destination... pour s'amuser, pour boire une bière, pour aller à la fête.
On est... Ah bon?
Imaginez la France à l'époque aussi. La France après mai 68, c'est comme refermé. Strasbourg aujourd'hui n'est pas Strasbourg qui était. Strasbourg à l'époque, c'était une ville très petite bourgeoise, très
fermée.
Mm-hmm. Donc nous autres, les jeunes, qu'est-ce qu'on faisait? On traversait le Rhin parce que l'Allemagne était déjà plus ouverte.
Oui.
Je rappelle toujours, je me souviens un exemple, à l'époque à Strasbourg, il n'y avait pas de radio dite libre, il n'y avait que les radios d'État. Alors, moi, je prenais, je syntonisais la radio des forces armées canadiennes à l'art.
Oui, oui.
Côté. Ce qui m'a fait, il m'a mis en contact avec les chansonniers québécois, par ailleurs.
Ouais. Okay. J'arrivais.
Donc, juste avant moi, vous êtes passé Gilles Vigneault. Alors, c'est à cette époque-là que j'ai connu ce grand poète.
D'accord.
Alors,
Jean-Yves.
Oui.
On va écouter une partie de son discours de démission.
Oui.
Je sais que vous n'allez pas aimer ça.
Non, ça. Je suis très réaliste.
Oui. On y va et puis je vous reviens.
Merci beaucoup. Merci. Je veux d'abord remercier chaleureusement l'immense majorité d'entre vous qui m'avez fait confiance. Je vous en suis très reconnaissant. Je vous en suis très reconnaissant. Par ailleurs, nous avions tous bien convenu que ce congrès était crucial, qu'il devait nous conduire dans une bataille impitoyable pour changer le mauvais gouvernement que nous avons et se servir de cette victoire comme base à une action référendaire rapide et réaliser la souveraineté du Québec. C'est votre rêve, c'est le mien. Vous vous souvenez qu'au début de mon discours, je vous ai dit que nous étions des militants et des militantes. C'était là le titre que nous avions en commun, et c'est le plus beau des titres. Ben, je veux vous dire que, à partir de maintenant, c'est le seul que j'aurai. Oui. Pour assumer des fonctions comme les miennes, qui étaient celles de René Lévesque et ses successeurs, il faut avoir un appui solide, indiscutable, massif. Je suis un homme de cause. Je ne suis pas un individualiste. Je suis un démocrate. Je suis un homme de société. Et je pense en mon âme et conscience que je ne pourrais pas servir la société comme je voudrais le faire avec ce niveau d'appui. Il laisse une inquiétude trop grande. Il laisse des possibilités de spéculation qui nuiraient à l'action du parti et qui nuiraient à mon action comme chef de ce parti. Quand je dis que je suis un militant, vous pensez bien qu'après des décennies d'action en faveur de l'indépendance nationale, mes convictions ne seront pas changées d'un iota. J'aurai même plus de temps pour les approfondir et pour en parler. Mais je ne serai plus en mesure de diriger ce parti que j'ai tant aimé et que j'aime encore. Je vous souhaite...
Jean-Yves.
Oui, ah, c'est terrible.
Comment vous vous sentez quand vous réentendez la voix de votre ami comme ça?
Me sens devant un homme courageux, mais meurtri.
Oui.
C'est l'émotion me reprend à chaque fois que...
Il a regretté après, non?
Oui, qu'il a regretté longtemps, je dirais. Et ce n'est que les deux dernières années de sa vie que finalement il a fait la paix avec ça, parce que, bon, dans mon livre, je le raconte, toute la petite intrigue qui était derrière ça. Moi, malheureusement, et je le regrette, c'est un des grands regrets, je n'ai pas pu être là.
C'est ce que j'ai lu, c'est votre regret à vous.
J'ai la prétention, moi et quelques-uns de ses grands soutiens, et j'ai la prétention de croire que si nous avions été là, il n'aurait pas démissionné.
Avec le regard, simplement.
Oui, nous l'aurions convaincu.
Oui.
Que 76%.
Vous vous en voulez pour ça?
Ouais, c'était bien suffisant. Mais il y a eu toute l'intrigue derrière lui. Je veux dire, il y avait comme une cabale qui était partie sur l'âge, mais il était trop vieux, il était trop si, il fallait un jeune. Bon, et on connaît la suite. Le jeune est arrivé, ça a été la catastrophe. Vous savez, le Parti québécois que je connais bien, les gens, ils se disent toujours, c'est un peu comme la Révolution, ils mangent ses enfants. C'est terrible à dire, mais c'est aussi, c'est parce que c'est un parti, que M. Lévesque avait voulu, c'est un parti de coalition, hein.
Oui.
C'est un parti d'idées où ça discute, où ça ercote, où on a des programmes, les congrès au programme, c'était épique, les batailles qu'il pouvait y avoir sur une virgule, sur deux mots. Ça peut paraître fastidieux, mais ça ne l'est pas, au fond.
Oui.
Que c'est la solidité des choses qui arrivent après, quand on est au gouvernement, notamment. Et je pense que tout le monde conviendra que les années au gouvernement du Parti québécois ont été dans les plus fructueuses pour un Québec, même pour un Québec dans le cadre du fédéralisme.
Oui.
Alors oui, entendre ça, ben, je veux dire, c'est la voix de mon ami,
oui,
qui est meurtri et qui lentement, à mon avis, va en mourir. Je veux dire, psychologiquement parlant, je veux dire, cette maladie qui lui avait été diagnostiquée bien des années précédentes, mais qui était tout à fait embryonnaire et stationnaire,
oui.
Bon, que voulez-vous, elle a commencé à se développer. Moi, j'ai toujours dit que c'était aussi une maladie de l'âme qui progressait. Et il est mort 13 ans après.
Oui, et puis vu l'âge qu'il avait aussi, il pouvait plus lutter. Hein.
Non,
plus
non,
de force,
non.
Il n'a plus de force.
Non, puis il avait plus cette force-là, mais il est resté, comme il disait, un militant tout ce temps-là. Il n'y a pas un groupe devant lequel il a refusé de parler. Il n'y a pas un texte qu'il a refusé de faire, d'autres qu'il a accepté de signer. Il est resté actif à ce point de vue-là. Et ses successeurs, au masculin et au féminin,
oui,
auraient tellement eu intérêt à lui parler, à le consulter, à l'écouter, qui n'a pas été le cas jusqu'à l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau, temporaire, et qui n'a plus été le cas non plus après Pierre-Carl Péladeau. Je ne dis pas ça avec amertume, mais je dis quand même.
Oui.
Ni André Boisclair, ni Pauline Marois, ni Jean-François Lisée n'ont jamais, jamais, jamais fait appel à Bernard sur rien, ne serait-ce que pour une idée, ne serait-ce que penses-tu de ci ou de ça. C'est bon, l'histoire jugera. Hein.
Et il était complètement mis à l'écart.
Oui, de la partie qui gouvernait, de ceux qui gouvernaient le Parti québécois au
oui.
sommet, pas des militants. Les militants faisaient appel à lui pour toutes sortes de choses, des campagnes de financement, des tournées. Les militants, on continue à l'aimer. Et cet amour... Moi, ses amis, sa famille, on s'en est vraiment rendu compte quand il est décédé. Je veux dire, cette espèce de vague énorme qui a défilé sur le Québec. Je veux dire, à Québec, à son exposition, il y avait pas assez de jours. Je veux dire, il y a plus de 12 000 personnes qui ont défilé devant le cercueil. À
oui,
Montréal,
oui.
La même chose. La basilique était pleine, c'était dans la rue. Je veux dire, les témoignages étaient incroyables.
Je me rappelle des vidéos que j'ai vues. Et puis, chaque fois que vous allez lui rendre visite, il vous disait, quand vous partiez, il disait... Amitié éternelle.
Amitié éternelle.
Et puis la dernière fois,
ouais,
il a dit amitié éternelle par-delà la mort.
Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Il est décédé dans la nuit de lundi à mardi et je l'ai vu le lundi après-midi. J'ai quitté lundi soir à 6 heures il avait l'air en forme, il était pas, mais en forme, assez en forme pour parler. Pour
oui, oui.
Et c'est ça qu'il m'a dit. Mais ça ne m'a pas frappé quand il me l'a dit. Ça m'a frappé le lendemain quand Chantal Renaud m'a appelé, très tôt le matin en disant...
Sa compagne.
Ça y est, il s'en va. C'est là que ça m'a frappé.
Oui.
Il le savait, il le sentait. Et je la sens, cette amitié éternelle, par-delà la mort. Je la sens tous les jours. Tous les jours.
Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ce grand homme?
Ce que je retiens de Bernard, c'est un homme exceptionnel. Oui. Il y en a comme ça. C'est un homme exceptionnel. Mais avant tout, c'est un grand humaniste. Ce personnage-là était d'une humanité. À la défense même des pires ennemis où il nous faisait considérer telle affaire, comme par exemple, jamais d'attaque personnelle. Il ne voulait jamais aucune attaque personnelle. Il nous l'interdisait. C'était un humaniste. C'était on dirait dans un temps, on disait un lettré. Il y avait une culture générale incommensurable. Vous savez, une anecdote, dans le premier mandat, on faisait beaucoup, de Québec-Montréal, dans ce que les gens appelaient faussement une limousine, mais en tout cas, on était assis à l'arrière.
Oui.
Et on ne pouvait pas travailler dans ces autos-là. À l'époque, aujourd'hui, elles sont plus sophistiquées. Et donc, on parlait, on discutait. Et un de nos sujets favoris, c'était de reparler de batailles importantes dans l'histoire. Alors que ce soit sous Alexandre, la bataille des Thermopyles en Grèce, il connaissait tout par cœur, combien il y avait d'hommes, combien sont tombés, etc. Un jour, on s'est obstiné sur... La Deuxième Guerre mondiale et l'avancée des troupes alliées en Alsace, surtout la deuxième DB du général Leclerc. Et je disais, voilà, telle date. Il me dit, non, c'est pas ça du tout, Jean-Yves. Il savait mieux que moi.
Il avait une mémoire, lui. Hein.
Il avait une
mémoire. On a une minute de la fin de l'entrevue. J'ai eu dans ma vie beaucoup de richesses qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Lorsque je quitterai ce monde, je sais que je laisserai à mon peuple tant chéri une autre richesse. Impalpable mais réel, celle d'un pays possible, mais tout de même d'un pays à faire.
Ouais.
Merci beaucoup Jean-Yves Dutel.
Merci.
Quand t'as vu, merci beaucoup. J'espère vous, je sais que vous avez écrit d'autres biographies aussi, livres, pas seulement des biographies, mais d'autres livres. Ce serait un grand plaisir, un grand honneur de vous réavoir en ondes pour découvrir votre parcours à vous, littéraire maintenant, on peut dire.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-Yves Dutel. Voilà.
Au revoir.
Merci.
Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, des abattoirs de millionnaires, des réservoirs d'années-lumière.
s'il n'y a pas de lune,
nous en ferons une.
Richard Desjardins, nous aurons. Merci à Myriam Larache qui est venue nous donner les nouvelles sportives, les dernières nouveautés, les nouvelles. Et merci à Jean-Yves Dutel, Bernard Landry. C'est le titre du livre. Bernard Landry, l'héritage d'un patriote, aux éditions Libre Expression, préfacé par Lucien Bouchard. Merci à toi, Maurice Bolduc. Et puis, on se retrouve demain à la même heure sur les ondes du Canal M. Merci à nos auditeurs, auditrices de leur fidélité. Et voilà, pas grand chose à dire. Prenez soin de vos minutes surtout. Et je vous dis... Ciao.